décryptage. Aurélien Devernois.
Bonsoir à toutes et à tous. Il occupe désormais le même rang que ses défunts pères et grands-pères. Kim Jong-un a été désigné cette semaine secrétaire général du Parti du Travail. Le dirigeant nord-coréen raffermit ainsi son pouvoir sur le pays alors que de nombreux défis se présentent à lui. La situation économique, handicapée par la fermeture des frontières en raison de la pandémie de Covid-19, la maladie en elle-même, dont les conséquences en Corée du Nord font l'objet d'interrogations, et l'arrivée de Joe Biden au pouvoir aux États-Unis en rupture forcément avec la stratégie de contact développé par Donald Trump. Alors comment Kim Jong-un entend-il répondre à ces challenges? Quelles perspectives s'offrent à la Corée du Nord? Des questions auxquelles nous tentons de répondre ce soir dans Décryptage. Et pour nous aider à y voir plus clair, Antoine Bondaz est en notre compagnie. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique et enseignant à Sciences Po. Alors, tout d'abord, nous allons parler du contexte politique nord-coréen, puisque depuis quelques jours se tient le congrès du Parti du Travail, le parti unique du pays, le cœur du pouvoir. Et ce n'est que la 8e fois dans l'histoire du régime nord-coréen que ce congrès est organisé, la première fois depuis 5 ans. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi ce choix de l'organiser en ce début d'année 2021.
Alors, c'est effectivement un événement extrêmement important dans la vie institutionnelle et politique du pays. Depuis son arrivée au pouvoir, Kim Jong-un a tout de même essayé de réinstitutionnaliser la vie politique, qui avait notamment souffert sous le règne de son père, Kim Jong-il, d'une très forte désorganisation. Kim Jong-un a donc décidé de réorganiser des congrès. Le 7e, vous l'avez dit, avait eu lieu il y a 5 ans, de lier les congrès au plan quinquennaux. Et dans le cas de celui-là qui est en train d'avoir lieu et qui est en train de se terminer, de l'avancer. Alors ça a été la surprise à l'été dernier, puisque en août 2020, Kim Jong-un avait annoncé que le congrès n'aurait pas lieu au printemps, comme c'est généralement le cas, mais dès le mois de janvier. On peut évidemment y voir un lien potentiel avec l'arrivée au pouvoir de l'administration Biden, l'objectif pour les Nord-Coréens étant d'envoyer autant de messages que possible aux dirigeants et à la nouvelle administration américaine. Plus largement, la question de ce congrès a été intéressante. Alors, il n'y a pas de grande surprise. La surprise, c'est peut-être la nomination, comme vous l'avez rappelé, de Kim Jong-un en tant que secrétaire général du parti. Kim Jong-un était déjà, il faut être extrêmement clair, le leader incontesté et incontestable.
Oui, parce que qu'est-ce que ça change? Il était déjà président du parti, donc là, il est maintenant secrétaire Exactement. Général.
Et puis surtout, il était président de la commission des affaires d'État, du conseil des affaires d'État, qui depuis une réforme relativement récente est considérée comme l'institution clé du pouvoir politique en Corée du Nord. Alors, ce qui s'est passé avec la nomination en tant que secrétaire général, c'est étonnant, puisque son père, Kim Jong-il, est encore aujourd'hui, et c'est inscrit dans la constitution nord-coréenne, le secrétaire général éternel du Parti du Travail. Tout comme son grand-père, le fondateur du régime, Kim Il-sung, est le président éternel de la République populaire et démocratique de Corée. Pour l'instant, il est assez difficile de vraiment comprendre la conséquence de cette nomination, mais c'est en tout cas, entre guillemets, une des surprises de ce congrès.
Alors, est-ce que c'est pas l'occasion pour Kim Jong-un de finalement prendre encore une fois un petit peu ses distances avec son père?
C'est fort possible. C'est une hypothèse extrêmement intéressante. Kim Jong-il, dans l'histoire de la Corée du Nord, il faut le reconnaître, est avant tout associé à des périodes très dures. L'effondrement économique du pays dans les années 90, la crise humanitaire et la famine en Corée du Nord, et puis l'isolement de fait de la Corée du Nord à partir de nouveau du milieu des années 2000, la seconde crise nucléaire de 2006, etc. Kim Jong-un, depuis son arrivée au pouvoir, s'inscrit évidemment dans la tradition dynastique de la Corée du Nord et il tire une grande partie de sa légitimité du fait d'appartenir à cette fameuse lignée de sang du Mont Paektu. Mais en même temps, il a cherché à se distinguer de son père et de se rapprocher de son grand-père, et au moins sur deux thèmes. Là, en termes de communication, Kim Jong-un veut se montrer comme étant beaucoup plus proche du peuple nord-coréen. Il multiplie les interventions publiques, les discours enregistré, ce que ne faisait pas son père.
Oui, on l'a même vu en octobre dernier pleurer à l'occasion du 75e anniversaire de la République
Exactement.
Populaire de Corée.
En termes de communication, le style de communication, ce qui est très important, même en Corée du Nord. Et puis sur les dimensions économiques, puisqu'il a entrepris de nombreuses réformes qui n'ont pas forcément eu l'impact espéré, mais qui visent un objectif, c'est améliorer la vie quotidienne des Nord-Coréens, même si évidemment il y a des contraintes qui sont avant tout des contraintes intérieures liées au système politique, mais aussi des contraintes extérieures liées notamment à l'impact des sanctions internationales.
Alors justement, Antoine Bondaz, on va parler de l'économie nord-coréenne parce que Kim Jong-un, lors de ce congrès, a pris la parole notamment pour évoquer la situation du pays et pour reconnaître, chose étonnante, que les orientations données lors du précédent congrès n'avaient pas été très concluantes. Écoutez-le.
Bien que la période de mise en œuvre de la stratégie quinquennale pour le développement économique national se soit achevée l'année dernière, presque tous les secteurs sont loin d'avoir atteint les objectifs fixés. Le congrès actuel va faire une analyse et un jugement complet et profond des expériences, des leçons et des erreurs que nous avons faites pendant la période considérée.
Alors ça ressemble quand même à une autocritique, hein, puisque c'est un « nous » utilisé par Kim Jong-un.
C'est de fait une autocritique qui vise aussi à accroître sa légitimité, à être capable de reconnaître des erreurs, notamment dans la mise en œuvre d'un plan quinquennal, et surtout présenter des excuses à la population. Ce qu'il avait fait il y a plusieurs mois est un signe de fait de responsabilité, entre guillemets, de Kim Jong-un. Alors effectivement, les objectifs du plan quinquennal n'ont pas tous été remplis. En 2013, la Corée du Nord avait mis en œuvre une stratégie nationale double, ce qu'on appelait la ligne Byung-jin, c'est-à-dire la double poussée. D'un côté, le développement des capacités nucléaires et de l'autre, le développement de l'économie. En 2018, lors du changement entre guillemets de séquence politique et le début du rapprochement intercoréen et entre les États-Unis et la Corée du Nord, un rapprochement très partiel, il y avait une nouvelle stratégie nationale sur la priorité à l'économie. Et dans ce cadre, il faut reconnaître que non seulement les réformes n'ont pas forcément abouti et que les sanctions internationales, surtout, ont eu un impact considérable, notamment sur le commerce extérieur du pays, puisque celui-ci s'est effondré. La Corée du Nord, aujourd'hui, ne peut plus exporter de matières premières, notamment du charbon, qui lui rapportait au plus d'un milliard de dollars par an, de produits de la mer, de produits textiles, etc.
Alors justement, Antoine Bondaz, sur quoi repose aujourd'hui l'économie nord-coréenne? Ce sont quoi les principales activités rémunératrices du régime?
Alors l'objectif du régime depuis plusieurs années, c'est d'accroître son autosuffisance. Alors c'est un vieux concept en Corée du Nord, mais qui n'était pas une réalité. Dans les années 70-80, la Corée du Nord était extrêmement dépendante du bloc communiste au sens large. C'est notamment pour cela que l'effondrement de l'URSS à la fin des années 80, au début des années 90, a provoqué une crise économique si importante en Corée du Nord. Depuis une vingtaine d'années, la Corée du Nord insiste sur son autosuffisance, mais ce sont vraiment les sanctions économiques et paradoxalement la crise de la Covid-19 qui, de fait, force désormais le régime nord-coréen à devenir autosuffisant. Ce qui d'ailleurs pose des problèmes politiques, puisque cela veut dire que le levier que pensait pouvoir utiliser la communauté internationale pour faire changer le comportement de la Corée du Nord, notamment sur la question nucléaire, est en train de s'affaiblir. De fait. Donc la Corée du Nord,
parce que le pays est moins dépendant finalement d'une éventuelle aide humanitaire en termes de
pas forcément d'une aide humanitaire, disons, mais en tout cas de ces échanges économiques. Aide humanitaire, s'il y a besoin, il y en aura une, et il ne faut pas conditionner très clairement une aide humanitaire à la dénucléarisation. Là, on parle plutôt peut-être d'aide économique, d'aide au développement, où là, évidemment, il y a une conditionnalité. Mais donc l'objectif des autorités nord-coréennes, c'est d'accroître leur autosuffisance. Ils ne sont pas coupés du monde. La relation et les échanges avec la Chine restent importants, même s'ils ont été considérablement impactés par la crise de la Covid-19. Et la Corée du Nord poursuit ou essaye de poursuivre des réformes extrêmement partielles, mais des réformes qui, in fine, visent à accroître la production céréalière, qui reste un problème important, à accroître la capacité de production d'électricité, que ce soit avec quelques nouveaux barrages, mais c'est extrêmement compliqué, aussi le développement du photovoltaïque, etc., dans les différents quartiers. Et puis, plus largement, la volonté d'essayer d'améliorer le niveau de vie de la population, puisque c'était l'engagement qu'avait pris dès son arrivée au pouvoir, Kim Jong-un, notamment dans son premier discours public le 15 avril 2012, en annonçant que les Nord-Coréens n'auraient plus jamais à se serrer la ceinture.
Alors, vous avez évoqué l'impact de la crise du Covid-19. Forcément, ça a un impact donc sur le contexte économique. Les échanges avec la Chine, notamment, se sont écroulés. En octobre, selon l'Institut coréen de statistique, ils ont touché un plus bas historique avec seulement 1,7 million de dollars d'échanges enregistrés, c'est très très peu à l'échelle normale des échanges entre la Corée du Nord et la Chine. Et c'est d'autant plus dur pour la Corée du Nord que en 2017 et 2018, le PIB avait reculé, mais qu'en 2019, il s'était légèrement stabilisé. En tout cas, il y avait des signaux plutôt positifs.
Il y a effectivement eu deux vagues, entre guillemets, qui ont abîmé, détérioré la relation commerciale entre la Chine et la Corée du Nord, les sanctions, vous l'avez rappelé, notamment les dernières sanctions qui ont été adoptées fin 2017 suite à un essai balistique intercontinental par la Corée du Nord, c'était en novembre 2017, depuis il n'y en a pas eu. Il y a eu de nombreux essais balistiques, mais pas d'essais balistiques à longue portée, et puis l'impact de la Covid-19. C'est un impact direct évidemment sur le commerce bilatéral, ça a un impact sur la capacité de la Corée du Nord à obtenir certaines matières premières, à obtenir certains biens. Aujourd'hui, par exemple, le travail des ONG en Corée du Nord, que ce soit des ONG nationales, il y a deux ONG françaises, par exemple, historiquement en Corée du Nord, ou le travail des organisations internationales, comme l'OMS, le Programme alimentaire mondial, sont évidemment très fortement impactés par la situation
parce
sanitaire.
Parce qu'il y a une très grande peur de l'impact potentiel de la crise sanitaire, en l'occurrence, sur la Corée du Nord.
Parce qu'il y a une peur considérable que le virus se propage en Corée du Nord. Les autorités nord-coréennes ont parfaitement conscience de leurs limites et de leurs insuffisances, notamment en termes de système de santé. Et elles ont parfaitement conscience que si demain, il y avait une flambée épidémique majeure en Corée du Nord, elles ne pourraient pas la gérer. Et donc, elles prennent avant tout des mesures de prévention pour éviter à tout prix la propagation du virus et l'arrivée du virus sur le territoire. C'était par exemple la fermeture des frontières dès la fin du mois de janvier. Ce sont des quarantaines imposées et extrêmement strictes aux habitants avec la frontière chinoise. Et puis c'est depuis le fait qu'il y a extrêmement peu de gens qui rentrent en Corée du Nord, extrêmement peu qui en sortent. Et ça, ça a des impacts extrêmement concrets, au moins deux. Sur le plan économique, la Corée du Nord avait beaucoup misé sur l'arrivée de nouveaux touristes. Notamment en développant un tourisme de masse à Wonsan, une ville balnéaire qui est en cours de finalisation par le régime. Samjiyeon, un grand complexe dans les montagnes, vers la fameuse montagne Paektu, où on voit régulièrement...
Le berceau de la dynastie familiale des Kim.
Et au-delà de la nation coréenne, d'où l'importance pour le régime politique. Et puis un tourisme plus de niche, par exemple à Kaesong, etc. Donc évidemment, la crise de la Covid-19 empêche l'arrivée de touristes. Et donc empêche l'atténuation, si je peux dire, des sanctions internationales et la capacité de la Corée du Nord de trouver des sources de revenus alternatives. Et puis deuxièmement, il y a des impacts très concrets en termes de négociations. Aujourd'hui, des diplomates nord-coréens ne peuvent pas sortir du pays pour venir en Europe, pour venir en Asie du Sud-Est, négocier soit avec ces pays-là, soit par exemple avec des diplomates américains. Les diplomates nord-coréens ne négocient pas par Zoom sur des questions extrêmement sensibles comme les questions nucléaires. Et encore une fois, la pandémie de la Covid-19 a donc un impact extrêmement concret sur des processus diplomatiques. Et ça, c'est évidemment un vrai problème.
Donc ça, c'est sur l'économie et la diplomatie. Mais on ne sait même pas si il y a eu un impact sanitaire sur le pays. Officiellement, il n'y a aucun cas en Corée du Nord. Sauf que, officieusement, il s'est dit, et notamment en Corée du Sud, qu'il y avait quand même eu un certain nombre de cas enregistrés et que ça avait beaucoup inquiété les autorités nord-coréennes.
Alors c'est évidemment extrêmement difficile de faire des estimations sur la réalité du terrain. Officiellement, des milliers de personnes ont été testées, zéro cas positif, donc évidemment zéro mort, ce qui serait un cas unique dans le monde. Il faut bien comprendre qu'encore une fois, la Corée du Nord a pris des mesures extrêmement rapidement, extrêmement proactives. Moi, je l'avais moi-même vécu, par exemple, en 2014, j'étais à l'époque à Pyongyang, les frontières avaient été fermées à l'époque à cause de la crise d'Ebola en Afrique de l'Est. Et donc, vous imaginez bien que si vous avez une pandémie à côté de la Corée du Nord, dans le pays voisin, la Chine, les mesures seront encore plus drastiques. Donc, il y a eu des mesures très fortes qui ont été prises. Peut-être qu'il y a eu une circulation extrêmement faible du virus. Le contrôle des populations, évidemment, facilite, de fait, la lutte contre ce type de virus respiratoire. Mais la réalité sur le terrain, évidemment, on ne la connaît pas. Et les ONG, qui d'habitude peuvent travailler difficilement, mais travaillent en Corée du Nord, ne peuvent plus aujourd'hui travailler efficacement en Corée du Nord. Et ça, c'est une vraie inquiétude, notamment vis-à-vis d'autres maladies, par exemple la tuberculose, notamment la tuberculose résistante, où il y a de nombreux cas en Corée du Nord. Et le fait de ne pas pouvoir prendre en charge ces citoyens nord-coréens pose évidemment un problème sanitaire.
Alors, ce que l'on sait, Antoine Bonda, c'est le sentiment de la Corée du Nord vis-à-vis des États-Unis, le plus grand ennemi du pays. C'est ce qu'a répété Kim Jong-un à l'occasion de ce congrès. Le plus grand ennemi du pays, et d'autant plus qu'avec l'arrivée de Joe Biden à la présidence, eh bien, cela aussi, ça inquiète les autorités nord-coréennes.
Alors, il y a évidemment des inquiétudes du côté nord-coréen et la volonté de garder des marges de manœuvre. C'est pour cela, très certainement, qu'il n'y a pas eu d'essais extrêmement provocateurs. Par exemple, un essai de missile intercontinental ou un essai nucléaire. Également, car la situation économique fait que s'il y avait des sanctions encore plus importantes sur la Corée du Nord...
Oui, ce ne serait plus tenable.
Économique, mais encore une fois, la situation est telle qu'elle est. Clairement, la Corée du Nord continue d'envoyer des messages à l'administration Biden. Le défilé d'octobre, lors de l'anniversaire du parti...
Donc un très important défilé pays, militaire.
Pardon, ...était extrêmement important. Il y a eu le défilé de nombreux nouveaux systèmes d'armes, dont ce fameux nouveau missile intercontinental qui a beaucoup fait parler, qui potentiellement aurait un emport plus important que le Hwasong-15 qui avait testé en 2017 et qui potentiellement donc pourrait emporter une arme de plus gros volume, de plus grosse masse sur le continent américain s'il y avait par exemple un conflit. Donc les messages continuent d'être envoyés. Ça a été le cas également il y a quelques jours dans le discours de Kim Jong-un, puisqu'il y a toute une section consacrée aux questions nucléaires et où il annonce en réalité les plans de développement du programme dans les années à venir, le développement d'armes tactiques, le développement d'un sous-marin à propulsion nucléaire, le développement d'un satellite de renseignement. Même si cela semble extrêmement ambitieux et peut-être peu crédible sur certains aspects, le message, il est clair. La Corée du Nord, elle a un programme nucléaire et balistique qui est actif, qui ne s'est jamais arrêté sous l'administration Trump et qui aujourd'hui est plus développé, plus important sur le plan quantitatif et qualitatif qu'il y a 4 ans et qu'il y a évidemment 10 ans, 12 ans lors de l'arrivée au pouvoir de la présidence Obama.
Donc cela acte finalement l'échec de Donald Trump et de sa nouvelle stratégie de communication avec la Corée du Nord.
Si l'objectif était la dénucléarisation de la Corée du Nord, l'objectif n'est évidemment pas atteint. Si
l'objectif... Mais ce n'était peut-être pas l'objectif.
Ce n'était sûrement pas l'objectif. L'objectif, qui est tout à fait louable, c'est aussi potentiellement de stabiliser la péninsule et d'éviter de trop fortes tensions, comme il y en avait en 2016 et en 2017. Puis il y avait évidemment des enjeux politiques.
Oui, de Donald trianguler
Trump,
la Chine.
C'est ça. Et puis surtout, Donald Trump a beaucoup mis en avant le fait que, contrairement au président Obama, il avait réussi à rencontrer Kim Jong-un. Ça a été un argument de campagne, alors qui évidemment n'a pas vraiment marché, puisqu'entre-temps, la pandémie, la dégradation des relations avec la Chine ont amené d'autres sujets au cœur de la campagne présidentielle, mais c'était un des arguments phares de l'administration Trump. Sur ce point-là, on ne peut pas reprocher à l'administration Trump d'avoir essayé de faire des négociations au plus haut niveau. Et cette approche top-down, comme on peut l'appeler, est extrêmement importante de par la nature du système politique nord-coréen. C'est d'ailleurs la stratégie qu'ont adoptée les Sud-Coréens. C'est ce que fait le président Moon Jae-in en essayant de rencontrer directement...
Oui, qui était d'ailleurs l'artisan du rapprochement Kim Jong-un-Donald Trump.
De rencontrer directement le dirigeant Kim Jong-un. Même si, évidemment, après, il y a une deuxième phase, qui est une phase de négociation par les négociateurs des différents pays. Et c'est là où, évidemment, il y a eu des problèmes et où il n'y a malheureusement pas eu d'avancée concrète.
Il nous reste une petite minute. Quelle va être la marge de manœuvre de Joe Biden, justement, vis-à-vis de la Corée du Nord?
Elle est pour l'instant extrêmement limitée. Les leviers américains se sont considérablement réduit. Il est difficile aujourd'hui de prendre de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord. La Chine et la dégradation des relations entre la Chine et les États-Unis rend toute coopération sino-américaine sur la question beaucoup plus compliquée. Et puis la Corée du Nord, évidemment, a continué d'envoyer un message clair. Elle ne souhaite pas négocier sa dénucléarisation. Si elle est prête à faire quelques gestes, le fait que que la Corée du Nord est un pays nucléaire et pour l'instant non négociable. Le point qui peut être intéressant à noter, c'est qu'il y a quelques jours a été annoncé le nom du prochain directeur de la CIA et on sait que Mike Pompeo, lorsqu'il était directeur de la CIA avant d'être au département d'État, a joué un rôle important dans les négociations et que la personne nommée a eu un rôle très important avec l'Iran, facilite les négociations secrètes et donc cela pourrait avoir un impact positif sur les relations.
Merci
avec la Corée.
Merci beaucoup Antoine Bondaz.